France Inter.
Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Marie et Marine. À demain. Pour nous, c'est parti. Deux heures ensemble dans le 18-20 de France Inter. Soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Et bonsoir Kevin Dufraîche.
Bonsoir.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, la disparition d'un amoureux des livres.
Et des écrivains. Bernard Pivot est mort aujourd'hui à 89 ans. Apostrophe, bouillon de culture. Il a bien sûr incarné la littérature à la télé durant près de 30 ans. Prescripteur aussi, bien souvent. Passé dans ses émissions, c'était quasiment la surprise de voir les ventes de son livre grimper.
Et on en parle avec l'éditeur Antoine Gallimard qui est l'invité de ce journal. Les autres titres, Kevin.
Entre annonces d'exercice nucléaire et convocation d'ambassadeurs, la Russie de Vladimir Poutine multiplie les signaux à destination des Occidentaux aujourd'hui. Quand Xi Jinping est à Paris, le président chinois appelé par l'Europe a aidé à calmer justement les tensions avec Moscou. À suivre aussi le plan Ecophyto nouvelle version, l'indicateur de mesure des pesticides dans les champs change et un tag sur la vitre qui protège le tableau L'origine du monde de Courbet.
Dans le 18-20 ce soir, c'est avec Pierre Aski qu'on regarde la visite du président chinois en France, ce qu'il attend de nous, ce qu'il y a, s'il y a des choses à attendre de lui. Le reportage nous emmène en Macédoine du Nord avant des législatives et des présidentielles. Vous comprendrez les enjeux quand vous saurez que ce petit pays des Balkans au nord de la Grèce est coincé entre la Bulgarie, la Serbie, le Kosovo et l'Albanie. Kevin, vous nous emmènerez notamment en Australie où une compagnie aérienne a pris une amende record pour vol fantôme. Vous nous expliquerez ce que c'est. Franck Madvon dans Le Monde à 18h50 expliquera pourquoi la France veut préserver son alliance avec le Tchad. Dans la BO du Monde, Cyril Sauvageau nous mettra dans les oreilles la musique que les Palestiniens entendent, y compris maintenant pendant ce conflit. En deuxième heure, c'est le téléphone sonne et c'est votre hommage, notre hommage à Bernard Pivot qui a sans doute fait découvrir des auteurs à chacun d'entre vous ou peut-être plusieurs, vous nous le direz.
France Inter. Bonsoir à tous. George Sand disait qu'en France, les mots ont plus d'empire, c'est-à-dire plus d'influence que les idées. Peut-être, mais n'était-ce pas plus un mot de George Sand qu'une idée, ce qui, somme toute, lui donnerait raison. Ce qui est sûr, c'est que le plaisir des mots fait partie des meilleurs plaisirs de la vie.
Et c'était le meilleur plaisir de sa vie, incontestablement. Bernard Pivot, ses lunettes sur le bout du nez, ses cravates parfois bigarrées, ses formules, ici dans son émission mythique, apostrophe, qu'il a animée entre 1975 et 1990, en direct sur Antenne 2 chaque vendredi soir. Bernard Pivot, présentateur, journaliste, écrivain, lui-même, est donc mort aujourd'hui, au lendemain de ses 89 ans. Bonsoir Ilan Amor-Youssef.
Bonsoir.
Notre spécialiste littérature ici à la rédaction de France Inter. Vous regardiez, vous, les émissions de Bernard Pivot, bien sûr. Il est né à Lyon, Bernard Pivot, et c'est dans le Beaujolais que tout a commencé pour lui.
Oui, c'est dans la maison familiale du Beaujolais qu'il a attrapé le goût des mots. Petit garçon, il dévorait avec passion le dictionnaire, qui était l'un des seuls livres disponibles chez ses parents. Après son diplôme de journalisme, il se lance. Entretien d'embauche désastreux au Figaro littéraire. Il est rattrapé in extremis par une question du rédacteur en chef sur le Beaujolais, qui n'avait pas de secret pour lui. Il quitte le Figaro en 74.
Et c'est là que commence l'aventure à la télévision avec ses grandes émissions littéraires.
Hein. Oui, Bouillon de culture notamment, et la plus célèbre, apostrophe, 724 numéros sur 15 ans et un générique devenu culte, le concerto numéro 1 de Rachmaninoff. Bernard Pivot accueille sur son plateau tout ce que la planète compte de grands écrivains, Yourcenar, Duras, Kundera, Solzhenitsyn et j'en passe, avec des moments mythiques comme cette émission de 78 où l'écrivain américain Charles Bukowski quitte le plateau ivre-mort avant la fin de l'émission.
Ok, we gotta go. Ciao. Ok. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ok. Bah, finalement, il tient pas tellement la bouteille, c'est écrit américain. Voilà. Vous voulez pas l'emmener là. Voilà. Monsieur. Au revoir, monsieur. Adieu. Bye bye.
Voilà, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait des tables apostrophes dans les librairies. Un tiers des achats de livres étaient dictés par son émission.
Et puis, c'est eu donc bouillon de culture hein, jusqu'en 2001, voilà où s'arrête la télévision pour Bernard Pivot. Trois ans plus tard, en 2004, il devient membre de l'Académie Goncourt, Ilana.
Oui, et il en deviendra d'ailleurs le président 10 ans après y être entré, où il a fait pas mal de nettoyage en matière de pratique. Et puis, il est lui plaisantait, il disait toujours « Je suis le seul membre du jury qui n'est pas écrivain ». Il a tout de même écrit une vingtaine de livres et son départ le 3 décembre 2019 du jury Goncourt est un événement. Il s'en était expliqué sur le plateau de C'est à vous sur France 5.
Tous nos étés à Académie Goncourt, nous les passons à lire les livres qui vont sortir à la rentrée littéraire. C'est-à-dire qu'on lit en juin, juillet, août entre 50 et 60 romans. Donc c'est au détriment du soleil, au détriment de la Méditerranée, au détriment de la famille, au détriment des copains. Et là, je me suis dit, combien me reste-t-il d'étés, de beaux étés devant moi ? Très très peu. Et j'ai décidé de quitter l'Académie Goncourt pour retrouver des beaux étés.
Voilà, et finalement, il a eu 4 beaux étés.
Bernard Pivot raconté par Ilana Mor-Youssef. Quelques réactions, beaucoup de réactions ce soir. La ministre de la Culture, Rachida Dati, salue, je cite, un très grand ambassadeur du livre, un militant de la lecture pour tous. Quand l'AS Saint-Étienne, club de foot dont il était un grand fan, hein, il n'avait pas que les mots dans sa vie, parle d'un homme de lettres entraîné par la passion stéphanoise.
Bonsoir Antoine Gallimard.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Bernard Pivot a été à l'époque de ces émissions, Monsieur Gallimard, et du Goncourt aussi, probablement votre fidèle allié, pas l'allié de l'éditeur que vous êtes, mais le meilleur passeur de livres, non ?
Oui, vous avez raison. C'est ça qui, je dirais, sa partie la plus forte, c'est d'avoir évité le cloisonnement entre les différents mondes, le monde du livre, même le monde du sport, le monde de la gastronomie. Et c'était un lecteur public comme d'autres ont été, comme d'autres ont eu le métier d'écrire. Mmh. Je pense que c'était quelqu'un de vraiment d'exceptionnel et d'extrêmement généreux.
Un livre chez Pivot, qu'est-ce que ça représentait ? Ilana Mor-Youssef l'a rappelé à l'instant, il y avait des tables Pivot dans les librairies. Les téléspectateurs, ça a commencé autour de 2,5 millions, c'est allé jusqu'à 6 millions. Ça devait quand même être quelque chose.
Oui, c'était extrêmement important. Un livre qui passait apostrophe, ça pouvait effectivement représenter un tiers, voire la moitié de la vente d'un livre. On se battait entre éditeurs pour être sûr qu'effectivement on irait toujours un ou deux livres à cette émission.
Et alors justement, comment on faisait pour chercher absolument à passer chez Pivot ?
Alors voilà, il avait une très grande qualité, c'est d'être absolument indépendant à tout niveau. Il a été vraiment quelqu'un d'exceptionnel à ce niveau-là, donc il avait à côté de lui toute une équipe qui lisait, qui lui faisait des recommandations, mais il aimait lire lui-même, et je pense qu'effectivement c'était très difficile à prévoir, parce qu'il avait un esprit extrêmement large, et on se souvient des très belles émissions sur Albert Cohen, donc il était ouvert à tout, et donc il était un homme imprévisible.
Ça veut dire que vous avez beaucoup échoué, vous aussi, Antoine Gallimard, à essayer de refiler vos auteurs à Pivot.
Oui, absolument. J'ai eu beaucoup d'auteurs qui sont passés et d'autres qui sont jamais passés. Et c'était bien ainsi.
Est-ce que vous avez un souvenir, vous, un moment apostrophe, ou peut-être un moment de bouillon de culture qui vous a marqué particulièrement, dont vous savez vous souvenir aujourd'hui ?
Oui, ben une fois, moi j'étais passé à la petite émission qui s'appelait Strophe. Il m'avait interrogé, je venais de prendre la responsabilité de la maison d'édition, et il m'avait dit, est-ce que vous arriverez à faire un catalogue comme celui de votre grand-père a réussi à faire ? Et je lui disais, ben écoutez, il se fera, et j'espère que vous m'aiderez. Et il a souri.
on le disait tout à l'heure, et vous le disiez Antoine Gallimard, il y avait une vraie indépendance chez Bernard Pivot lorsqu'il a été au Goncourt. Est-ce que vous avez le sentiment que, et on a dit aussi qu'il y avait eu un vrai ménage au Goncourt. Est-ce que vous avez le sentiment que le Goncourt, sous Bernard Pivot, ressemblait à quelque chose de différent ?
Ah oui, tout à fait. Je veux dire qu'avant, il a vraiment souhaité qu'il y avait le moins d'influence possible. Il y en a toujours un petit peu des éditeurs des uns et des autres, mais il était très attentif à ça, très attentif à jamais de recevoir de cadeaux particuliers. Et c'est vrai que ça a été le début d'une clarification. Même il a changé certaines règles. Voilà, je trouve ça très bien.
Est-ce que vous avez le sentiment, c'est ce qu'on lit beaucoup ce soir, que il a su faire rentrer non seulement dans son émission, mais aussi dans le concours, justement, à la fois des livres qui étaient assez élitistes, qui pouvaient être ardus, mais aussi une littérature populaire qui peut-être y avait moins sa place avant.
Oui, ce qui l'intéressait, c'était vraiment les mots, le jeu des mots, l'écriture, le style, un tempérament, et quel que soit le sujet traité. Donc il pouvait effectivement prendre aussi bien un grand essayiste, comme Mickiewicz, qu'un homme beaucoup plus ouvert, ou je sais pas, comme il a eu Henri Troya, ou Solzhenitsyn, c'était formidable. Donc il était vraiment, il se considérait comme quelqu'un qui était un courriériste, vraiment à la fois l'actualité, et puis la grande vague de fond. Et c'est vrai vrai, comme courriériste qu'il a été dès le départ, il a toujours appliqué cette attention au quotidien.
Est-ce que vous diriez rapidement, Antoine Gallimard, aujourd'hui, que les François Bunel et les Augustin Trapenard sont les nouveaux pivots? Est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux pivots?
Alors, je crois que c'est difficile d'être un nouveau pivot, mais c'est vrai que tout le monde s'inspire un peu de ce qu'il a fait, de l'attention portée, et puis de la qualité, quel que soit le texte, d'avoir toujours cette vigilance sur la nouveauté.
Antoine Gallimard avec nous dans le 18h, merci beaucoup.
L'actualité ce soir, c'est aussi la visite d'État de Xi Jinping en France. Le président chinois accueilli à l'Élysée par Emmanuel Macron, l'occasion d'évoquer plusieurs grands dossiers, notamment économiques, la concurrence jugée parfois déloyale par l'Europe. L'Union européenne n'hésitera pas à prendre des décisions fermes pour protéger son économie et sa sécurité. Voilà ce qu'a dit Ursula von der Leyen à l'issue d'un entretien à trois à la mi-journée, la présidente de la Commission européenne, qui a aussi évoqué la guerre en Ukraine, jamais condamnée jusqu'ici par Xi Jinping, allié indéfectible de Vladimir Poutine.
Nous comptons sur la Chine pour user de toute son influence sur la Russie, afin que cesse la guerre d'agression russe contre l'Ukraine. Le président Xi Jinping a joué un rôle important dans la désescalade suite aux menaces nucléaires irresponsables de la Russie. Et je suis confiante dans le fait qu'il continuera à le faire, alors que cette menace nucléaire persiste côté russe. Nous avons également discuté de l'engagement de la Chine à ne fournir aucun équipement létal à la Russie. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour réduire la livraison à la Russie de composants à double usage qui sont utilisés sur le champ de bataille. Compte tenu de la menace existentielle que représente cette guerre à la fois pour l'Ukraine et pour l'Europe, cela affecte les relations entre l'Union européenne et la Chine.
Ursula von der Leyen, écoutée, traduite par Louise Baudet, une menace nucléaire évoquée par la présidente de la Commission, quelques heures seulement après que l'on a appris que le président russe ordonnait la tenue de nouveaux exercices nucléaires prochainement. Sylvain Tronchet, vous êtes le correspondant de France Inter à Moscou. C'est un nouveau signe d'agitation du côté du Kremlin et il se multiplie ces dernières heures.
Oui, et le Kremlin effectivement a clairement haussé le ton aujourd'hui en annonçant, vous l'avez dit tout d'abord, des exercices nucléaires qui vont se dérouler tout proche de la frontière ukrainienne, exercices qui sont une réponse aux propos jugés provocateurs de certains responsables occidentaux. Emmanuel Macron, qui a réitéré qu'il était envisageable d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, est visé, a précisé le porte-parole de Vladimir Poutine, pour que les choses soient bien claires. Moscou a également, dans la foulée, convoqué les ambassadeurs de France et de Grande-Bretagne aujourd'hui. Pour le français Pierre Lévy, c'est la troisième convocation cette année. On ne sait pas exactement ce qui lui a été dit. En revanche, son homologue britannique, lui, s'est vu reprocher les récentes déclarations de son ministre David Cameron, qui a brisé un dogme en quelque sorte en estimant que l'Ukraine pouvait légitimement utiliser des armes britanniques pour frapper le territoire russe. Une déclaration qui a provoqué la fureur de Moscou, qui menace maintenant à son tour de frapper des installations britanniques en Ukraine et au-delà, sans plus de précision. Le tout alors que la Russie entre dans une séquence importante avec l'investiture de Vladimir Poutine demain et son discours sur la place Rouge jeudi à l'occasion des célébrations du 9 mai.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou pour France Inter.
Au Proche-Orient, des milliers de Palestiniens fuient Rafah.
Cette ville tout au sud de la bande de Gaza, à la frontière avec l'Égypte, où se sont réfugiés près d'un million et demi de civils ces derniers mois. L'armée israélienne lance des messages d'évacuation depuis ce matin pour demander aux populations de quitter la partie est de la ville. Un ordre inhumain, dit à l'instant l'ONU dans un communiqué. D'après la défense civile palestinienne, l'armée israélienne a intensifié aujourd'hui ses bombardements sur Rafah. Et à l'instant, le président américain Joe Biden redit à Benjamin Netanyahou son opposition au lancement d'une offensive terrestre sur place, quand Londres se dit profondément inquiet d'une possible offensive à Rafah. Le conflit au Proche-Orient, depuis le début duquel le nombre d'actes antisémites a bondi en France. L'an dernier, près de 1700, soit 4 fois plus qu'en 2022. D'où le lancement aujourd'hui des assises de lutte contre l'antisémitisme par le gouvernement. Et Aurore Berger, la ministre chargée de la lutte contre les discriminations. Bonsoir William Delesseux.
Bonsoir Kevin.
La ministre qui s'est rendue au lycée Charlemagne dans le centre de Paris aujourd'hui, où se tenait un atelier à destination des élèves sur ce sujet.
Oui, Aurore Berger s'est invitée pour l'heure de cours de géopolitique dans le lycée entre Saint-Paul et la Seine. Tous les élèves de cette classe qui se sont rendus il y a quelques semaines visiter le camp d'Auschwitz. Les lycéens ont aujourd'hui organisé des débats, des exposés. Gabriel était par exemple chargé de rendre compte de ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux.
Par exemple, dès que quelqu'un s'affichait en tant que juif sur TikTok, très rapidement, dans la seconde, il y avait souvent des déferlements de commentaires antisémites. Les gens qui écrivent ça ne diront jamais ça dans la vraie vie. Mais c'est vrai que c'est plutôt inquiétant.
Inquiétude qui est aussi celle de la ministre. Ce type d'atelier pourrait être reproduit dans d'autres établissements en France.
Ce travail, s'il n'est pas réalisé dans les familles, il faut évidemment que l'État s'en empare. Et c'est évidemment ce qu'on fait au premier rang avec l'éducation nationale. Il y a aujourd'hui la nécessité d'une mobilisation générale de toute la société. Si l'antisémitisme reste l'affaire des Juifs, alors on n'arrivera jamais à avancer. Si l'antisémitisme devient l'affaire de toute la société française, alors on a une chance, je l'espère, d'arriver à l'enrayer dans un moment, on le voit bien, qui est beaucoup plus tendu qu'il ne l'était encore il y a quelques mois.
Voilà, mais Aurore Berger n'a pas fait d'annonce concrète. Les discussions dans le cadre des assises contre l'antisémitisme vont se poursuivre après les élections européennes.
Un reportage signé William Delesseux. Après le vignoble de Chablis en Bourgogne, c'est celui de Bergerac dans le sud-ouest qui souffre. 2000 hectares de vignes ont été complètement détruits par la grêle hier. C'est l'interprofession des vins de Bergerac et de Duras qui donne le chiffre ce soir. Ces intempéries en Dordogne, on y revient dans le journal de 19h.
Et revoilà le plan Ecophytome.
Mise en pause il y a 3 mois pour tenter de calmer la colère des agriculteurs. Le gouvernement a officiellement présenté aujourd'hui la nouvelle version de ce plan de réduction des pesticides en France. L'objectif, c'est toujours de faire baisser leur usage de moitié d'ici 2030 dans les exploitations. Ce qui change, bonsoir Steven Goyer.
Bonsoir.
Ce qui change, c'est l'indicateur, la façon de calculer ces quantités de pesticides un peu moins contraignantes.
Oui, fini le NODU, l'indicateur français qui faisait autorité jusque-là et prenait en compte la quantité de pesticides utilisés par hectare sans distinction. Place maintenant au HRI1. C'est un indicateur européen plus centré sur les différences de dangerosité avec des coefficients donnés aux produits phytosanitaires en fonction de la nocivité. Un changement réclamé par plusieurs syndicats d'agriculteurs comme la FNSEA et dénoncé par les associations environnementales. Le gouvernement, de son côté, avance plusieurs arguments pour justifier cette nouvelle méthode de calcul, la cohérence européenne pour éviter la concurrence déloyale entre des agriculteurs européens qui ne seraient pas soumis aux mêmes règles, ou encore la volonté de s'attaquer d'abord aux pesticides les plus nocifs et non plus aux pesticides en général. Et ce changement permet aussi d'avancer plus vite sur les objectifs. Le nodule, par exemple, n'a pas beaucoup bougé depuis la période de référence 2011-2013. En revanche, si l'on prend en compte le HRI1, la France a déjà réduit l'usage des pesticides de 28 à 30% sur la même période.
Steven Goyer, cette nouvelle mouture d'Ecophyto prévoit aussi une enveloppe de 146 millions d'euros par an consacrée à la recherche d'alternatives aux produits phytosanitaires.
Un chef-d'œuvre pris pour cible au centre Pompidou, Metz.
Cette fois, pas de soupe, mais de la peinture rouge, pas de revendication écologiste, mais féministe. Un groupe de personnes a peint un hashtag MeToo sur la vitre de protection de l'origine du monde, le célèbre tableau de Gustave Courbet, Julie Seignora.
Peu avant 14h, un groupe de personnes a voulu taguer plusieurs œuvres. Selon la direction du centre Pompidou-Metz, 5 au total ont été prises pour cible, dont le chef-d'œuvre de Gustave Courbet, l'origine du monde, qui représente le sexe d'une femme. Les mots MeToo ont ainsi été inscrits à l'aide d'un petit pinceau sur la vitre qui protège le tableau. Certains des auteurs sont parvenus à prendre la fuite, mais 2 d'entre eux ont été interpellés. La police est sur place pour les premières constatations et analyser la vidéosurveillance. Selon l'agence France Presse, il s'agit d'une performance de l'artiste franco-luxembourgeoise Déborah de Robertis, connue pour des actions choc comme montrer son sexe en 2017 devant la Joconde au musée du Louvre ou l'année suivante à Lourdes. Une de ses œuvres est justement exposée en ce moment au centre Pompidou-Metz, une photo où l'artiste pose nu sous l'œuvre de Courbet.
Julie Seignura, France Bleu, Lorraine Nord. Et puis il y a de la Ligue 1 de football ce soir, un lundi, une fois n'est pas coutume. Lille reçoit Lyon à 21h. En cas de succès, les nordistes monteraient sur le podium à la place de Brest. La 3e place du championnat est qualificative pour la Ligue des Champions.
Kevin Dufraîche, merci beaucoup. À tout de suite, Kevin, dans Un jour dans le monde, on jette un œil sur le ciel.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Élodie Callec, bonsoir. Encore des averses au programme ce soir.
Oui, bonsoir à tous. En effet, des averses sur une grande partie du pays. Demain, il faudra à nouveau composer avec ces averses. Alors, elles seront plus nombreuses au sud de la Loire le matin. Parfois soutenues et orageuses sur le sud-ouest l'après-midi. Quelques orages possibles aussi vers le centre-est. Du sud de l'Alsace au nord des Alpes, ce sera très nuageux avec des pluies. Il neigera sur les Pyrénées et le nord des Alpes autour de 1800 mètres. Et puis, il y aura aussi des éclaircies sur la plupart des régions. Alors, plutôt belles sur une bonne partie nord l'après-midi. Et le soleil se montrera davantage près de la Méditerranée, au prix du vent, jusqu'à 50 à 70 km à l'heure.
Et des températures encore un peu justes.
Un petit peu, oui. Le matin, il fera 6 à 13 degrés. L'après-midi, souvent 15 à 21 degrés. Patience, hein, l'amélioration se dessine à partir de mercredi. Pour la deuxième partie de semaine, on aura un temps de plus en plus ensoleillé et de plus en plus doux, voire chaud même pour le week-end.
Et Élodie Callec de Météo France qui reviendra tout à l'heure après le journal de 19h.